I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois une femme assez exceptionnelle, Christine Nalchadian. Christine est directrice de l'éducation et de la recherche chez Microsoft France, mais en plus de cela, elle a un parcours incroyable. Pendant cet épisode, nous allons parler de la place du numérique dans l'éducation de nos enfants, mais la nôtre également. Nous allons parler de son parcours à elle, nous allons parler de son deuxième métier, puisqu'elle est également écrivaine. Et j'espère que vous allez passer un extrêmement bon moment à écouter cet entretien, un aussi bon moment que moi j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Christine.
Bonjour Gaël.
Alors Christine, comme d'habitude, je commence par vous présenter rapidement. Très honnêtement, vous avez un parcours très 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 à part. Vous êtes née en Arménie, votre famille a fui le conflit et vous avez grandi en Russie et vous êtes expatriée en France autour de vos 20 ans. Vous avez eu plein de vies, dont entrepreneur, journaliste, mais vous avez choisi de poursuivre votre carrière dans le marketing chez Danone, Google, Alcatel et aujourd'hui Microsoft France. Vous dirigez aujourd'hui l'entité éducation et recherche chez Microsoft, avec d'autant plus d'intérêt pour le sujet que vous avez vous-même eu une petite fille il y a 4 ans, un bébé que vous avez décidé de faire toute seule. Alors si j'en parle, ce n'est pas que je suis allé fouiller sur internet, c'est que vous en avez tiré un livre dont nous parlerons très probablement un peu plus tard dans l'interview. Vous intéressez particulièrement aux thématiques portant sur l'apprentissage à distance des enfants, mais aussi plus généralement au harcèlement sur Internet, par exemple. La mission de l'équipe éducation et recherche est de donner à chaque individu et à chaque organisation les moyens de réaliser leurs ambitions. Avec votre équipe, vous mettez en place pour des élèves, des professeurs, des parents et des administrations scolaires tous les outils pour se concentrer sur l'essentiel, apprendre. En fait, Christine, ma question sera très simple et porte sur votre activité actuelle avant de revenir sur vous plus généralement. L'entité éducation et recherche chez Microsoft France, c'est quoi ?
Alors merci, c'est très flatteur. Alors, l'entité éducation et recherche chez Microsoft France, c'est avant tout une équipe d'hommes et de femmes qui sont là et qui accompagnent de différents établissements ou même des enseignants ou des élèves. Des étudiants, bien entendu, dans leur parcours vers une pédagogie plus réussie, on va dire, ou une pédagogie accessible. L'objectif, nous, ce qu'on a, c'est d'être vraiment partenaire de tous ces établissements, de s'assurer qu'ils ont tous les outils dont ils ont besoin pour pouvoir avoir une continuité pédagogique, pour accéder aux informations, aux formations, pour pouvoir faire les cours en vidéo s'il le faut. Enfin, voilà, nous, vraiment, on se positionne comme un partenaire dans la partie pédagogie, avec de tous les établissements, de toutes les personnes qui souhaitent apprendre. Et puis on sait très bien qu'apprendre, c'est vraiment la vie et qu'il ne faut jamais s'arrêter d'apprendre. Donc on accompagne là-dedans.
Mais alors, votre entité s'appelle Éducation et Recherche. Alors éducation, je comprends bien, vous l'avez très bien expliqué. Recherche, pourquoi ?
Puisque la recherche, en fait, ça fait partie aussi du monde éducatif. La recherche, elle est souvent adossée à des universités, par exemple, ou des grandes écoles. La recherche en elle-même, elle aide l'avancement, le prochaines étapes. Donc, la recherche reste quand même un sujet extrêmement important dans la partie éducation. Donc, on travaille avec des centres de recherche qui soient adossés ou pas aux universités ou aux grandes écoles.
D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Alors, je n'avais pas du tout prévu. Alors, c'est plus une remarque qu'une question. Je me dis que sans le numérique, mine de rien, on n'aurait jamais trouvé un vaccin aussi rapidement. Parce que si j'ai bien compris, c'est grâce au numérique que tous les chercheurs ont pu travailler ensemble. Et c'est vrai que le numérique, fondamentalement, est au cœur du partage de connaissances. J'imagine que c'est une problématique que vous connaissez particulièrement bien. Et c'est un des atouts de ce que vous faites, le partage de connaissances d'un point de vue mondial, non ?
Alors clairement, la technologie, elle avance, elle aide à l'avancement assez rapidement. clairement, le numérique, il va aider de partager l'information, d'avoir accès à de différentes, à de différents parcours ou même des exemples, à s'appuyer sur quelque chose qui existe déjà au lieu de commencer ou recommencer quelque chose. Et ce qui est intéressant, le plus intéressant, je dirais, là, dans tout ça, c'est dans cette transformation numérique, c'est vraiment le collaboratif. Ouais. On ne fait plus chacun de son côté, on se base sur quelque chose, on travaille ensemble. C'est vraiment une connaissance collective, un appui sur des bases collectives. Et donc, bien entendu, ça aide à aller un petit peu plus vite.
Mais j'imagine que entre votre rôle avant la pandémie et après la pandémie, allez, soyons optimistes, disons que nous sommes dans la phase post-pandémie. J'imagine que ce rôle a été radicalement changé, ou tout du moins, les gens ont nettement mieux compris votre rôle, non ? Est-ce que la pandémie a joué un rôle extrêmement important dans l'évolution de votre entité ?
Alors, ce qui est intéressant, ou ce qui est important, je dirais, là-dedans, c'est de se dire qu'en effet, cette crise a permis de comprendre que le numérique dans l'éducation est vraiment très important, et qu'on peut s'appuyer dessus, et qu'il y a des choses qui sont possibles aujourd'hui qui semblaient impossibles avant. Après, est-ce que notre rôle, nous, en tant que l'équipe, elle a changé ? Pas forcément, puisque nous, on accompagne toujours d'un point de vue outil. Néanmoins, alors, il a été bien entendu plus poussé il y a un an, puisqu'au moment où c'était la première crise et il y avait un premier confinement et toutes les écoles étaient en train de fermer et il fallait passer en mode full digital, il fallait bien sûr accompagner. Donc on a eu des moments, l'équipe elle a eu des moments vraiment où il fallait nuit au jour accompagner, expliquer comment ça marche. Il y a eu des universités qui ont dû passer d'une semaine à une autre à des cours uniquement à distance. Vous pouvez le regarder d'ailleurs, il y a même des références, par exemple Dauphine qui a fait ça. Il fallait accompagner parce qu'il n'y a pas que l'accompagnement technologique, mais aussi l'accompagnement un peu dans la prise en main de l'outil
dans
et
la
de
pédagogie
façon de
même.
Travailler. Exactement. Alors oui, nous on n'est pas pédagogue, on se base sur l'expérience des professeurs, et d'ailleurs des professeurs qui sont vraiment très innovatifs et qui veulent avancer, mais qui font ce qu'ils peuvent. Donc nous, oui, clairement, les aider dans leur pédagogie. Après nous, c'est comme ça qu'on se positionne, c'est vraiment d'aider, de faire la pédagogie telle qu'ils le veulent. En fait, il y a même des lycées ou des collèges qui ont profité un peu de cette situation d'avoir des cours à distance et qui ont fait intervenir des professeurs ou des philosophes qu'ils n'auraient pas pu faire intervenir autrement parce que physiquement, c'était impossible pour eux de se déplacer. Donc nous, on va être plutôt là, on va être dans l'accompagnement, dans le partenariat, dans le partage d'expériences. Après, nous, notre rôle, est-ce qu'il a vraiment changé ? Nous, en tant que, même que ce soit mon rôle en tant que manager ou notre rôle en tant qu'équipe, il n'a pas forcément beaucoup changé puisque c'est ce qu'on faisait avant et c'est ce qu'on fait toujours. On accompagne, on explique, on montre l'exemple. On a beaucoup travaillé en hybride avant, on travaille toujours en hybride, voilà. Après, est-ce que le rôle des enseignants a changé ? Oui, clairement. Est-ce que la manière comment les élèves apprennent ? Oui, ça a changé. Et nous, on était là et on est toujours là pour aider là-dedans, dans l'accompagnement.
En fait, ma question, c'est plus une remarque. C'est avant la pandémie, personnellement, j'étais un fervent défenseur du télétravail et plein d'entreprises. Enfin, pour rappel, il n'y avait que 16% des entreprises qui avaient des accords de télétravail avant la pandémie. Maintenant, ça va. Enfin, oui. Bientôt, on arrivera à 100%. Donc, moi, je militais pour quelque chose et la pandémie a agi comme un énorme accélérateur. J'imagine que pour vous, ça a joué un peu le même rôle. Vous aviez cette même conviction avant la pandémie. Mais la pandémie a mis les gens devant un fait accompli, on doit travailler à distance. Et finalement, est-ce qu'on n'est pas dans une phase où une fois qu'on a été obligé, pendant les confinements par exemple, maintenant on va peut-être en tirer le meilleur et comme vous le disiez si bien, se dire « Ah mais dis donc, tel philosophe que je ne pouvais pas faire venir, ben en distanciel il va pouvoir venir, ce qu'on n'aurait peut-être pas fait avant la pandémie ». Est-ce que ça n'a pas été un accélérateur formidable ?
Ouais, clairement, ça a été un accélérateur. Alors, dommage qu'on ait quand même dû avoir une crise. Hein,
ça, on est bien d'accord. Mais malheureusement, les crises agissent souvent comme ça.
Mais
on
voilà.
Est d'accord.
Donc, il y a un accélérateur. Après, il y a eu quand même tout au début un peu alors pas forcing, mais on était obligés, on n'avait pas le choix puisque tout était formé, il fallait accélérer, il fallait aller vers le digital. Et puis à partir de, je dirais, la deuxième rentrée, peut-être qu'on a, enfin la rentrée en fait, la rentrée de l'année dernière, on a commencé à se dire que finalement il y a de l'intérêt, il n'y a pas que du fait qu'on est obligé. Aujourd'hui, je pense que la pédagogie a changé, la manière de voir ou d'apprendre est différente, même de collaborer en fait. Si avant on se disait que c'est une information entre guillemets descendante par vidéo, on va juste envoyer l'information vers un élève ou vers un étudiant et puis ça s'arrête là. Avec le temps, on a compris que non, ça peut être un partage d'expérience, ça peut être une discussion en fait, et on peut même rajouter des applications dedans, les applications de la EdTech française hein, d'ailleurs, des partenaires de petites startups françaises qui eux, ils vont mettre en place un peu une discussion, une communication. On peut même s'assurer qu'on les élèves ont une interaction avec les enseignants. Enfin voilà, il y a tout cette volet qui commence à comprendre. Après, il y a bien sûr l'accessibilité. Il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas accès, ou même des élèves qui n'ont peut-être pas accès à la même qualité d'éducation, et donc le digital va permettre d'accéder. Il y a aussi peut-être accessibilité d'un point de vue d'une situation d'handicap. On peut peut-être aider avec les outils qu'on va mettre en place pour avoir la même qualité d'information ou d'avoir rien que les informations disponibles. Donc tout ça, au début, autant c'était une accélération par manque de choix, je dirais. Après, c'est devenu une accélération parce qu'on a compris le besoin et aujourd'hui, c'est devenu un peu une norme. Alors, on va voir comment ça va se passer. Mais vous avez vu, il y a eu beaucoup de plans et de compréhension des écoles ou même des universités dans la compréhension d'équipements, des outils, etc.
Bien sûr. Alors, j'ai une question alors qui n'est pas provocatrice, mais allez, si, un petit peu. En fait, pour nos enfants, moi j'ai une collection d'enfants, j'en ai 5, et je les ai vus basculer en 100% numérique. Oh, ils ne sont pas tous à moi, mais sont tous mes enfants, in fine. Et on les a vus travailler à distance, donc les petits comme les grands. Est-ce que pour vous, avec votre regard de maman, mais également justement avec votre double casquette d'être patronne de cette entité, est-ce que pour vous le numérique est un danger ? Une opportunité, ou est-ce que ça dépend ce qu'on en fait, et est-ce que ça doit être les parents qui éduquent, est-ce que ça doit être Microsoft, est-ce que ça doit être l'école, est-ce que c'est un mélange, comment est-ce qu'on apprend ça? Parce que très clairement, le numérique peut aussi bien être un danger total, on le voit avec le harcèlement, ça peut être une opportunité extraordinaire, mais vous, est-ce que vous estimez avoir un rôle pour que ça devienne plus une opportunité qu'un danger, ou finalement c'est le partenariat avec les parents, avec les institutions qui va faire que ça va devenir qu'une opportunité. C'est quoi votre regard sur cette notion qui inquiète beaucoup de parents et beaucoup d'adultes d'ailleurs, danger ou opportunité pour les enfants ?
Alors, clairement, c'est une question qui est compliquée. Moi, je vais vous donner mon exemple en tant que mère, même si elle est petite, la mienne, elle n'a pas encore accès aux outils numériques toute seule. Hein. Je suis là pour l'instant. Je pense que ça dépend vraiment de ce qu'on en fait. En fait, ça peut être une opportunité comme ça peut être un danger, et ça dépend du temps qu'on va passer dessus et qu'est-ce qu'on va en faire. Si on l'utilise, je dirais, entre guillemets, correctement, si on utilise les outils pour apprendre et que ça devient des outils de pédagogie et qu'on va en faire un peu un accès pour des formations ou d'autres, ou même des travaux d'équipe, ce genre de choses, oui, ça peut être correctement utilisé et c'est clairement une opportunité. Si l'idée, c'est de passer beaucoup de temps sur des réseaux sociaux, etc., alors je ne juge pas, mais moi, la mienne, je ne la laisserai pas faire ça, puisque de mon point de vue, ça ne serait pas une opportunité, voire bien le contraire, et on voit bien ce qui se passe. Donc je pense que c'est vraiment, ça dépend ce qu'on en fait, et le challenge aujourd'hui que nous, on a en tant que parents et même en tant qu'adultes, c'est de transformer cette utilisation beaucoup plus en pédagogie. Même peu importe qu'on travaille dans l'éducation ou pas, mais d'utiliser les outils pour apprendre ou pour voir différemment les choses ou pour travailler avec, versus d'utiliser un entertainment où on va regarder des reels ou d'autres choses et bien qui finalement, d'un point de vue contenu, ne vont pas nous amener bien loin.
Mais alors justement, Christine, est-ce que l'une des missions de votre entité, c'est justement pas d'orienter plus l'usage numérique vers l'éducation, vers quelque chose entre énormes guillemets de sérieux, parce que l'éducation, ça peut être aussi ludique, mais justement de rappeler que le numérique, ça peut être aussi fondamentalement utile. Est-ce qu'il y a une partie de mission qui vous est donnée de rassurer
les
parents?
Alors oui, clairement, oui, oui. En effet, et d'ailleurs ce qui est intéressant là-dedans, c'est très intéressant dans ce que vous dites, parce qu'on s'est rendu compte à la dernière rentrée, pas celle-là, mais celle d'avant, que finalement on a donné les équipements, les ordinateurs aux élèves, et c'est très bien, on les apprend à peu près comment utiliser. Néanmoins, les parents, eux, finalement, est-ce qu'ils ont eu cette formation? Mais pas tous les parents, donc ils savent pas quoi en faire. Certes, on sait peut-être travailler avec, mais qu'est-ce qu'on en fait exactement d'un point de vue pédagogique? Donc nous, on a créé un partenariat avec Simplon. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais ouais. C'est un organisme qui nous aide à... Voilà, bah, très bien, on a fait un partenariat avec Simplon, où Simplon allait faire des formations auprès des parents d'élèves pour justement leur apprendre comment utiliser les ordinateurs dans le cadre pédagogique. Alors, est-ce que c'est notre rôle? Oui et non, on ne sait pas. C'est vraiment un investissement de temps et de notre cerveau là-dessus. Mais nous, on y croit. On croit au fait que tout le monde doit comprendre comment utiliser et que s'il y a des questions, ben, on va essayer de répondre. Et puisque nous, on n'est pas des formateurs, ben, on va demander ceux qui sont professionnels dans ce domaine de le faire. Et donc, Simplon, il est allé le faire, sachant que c'était des formations agnostiques. On ne sait pas comment utiliser nos outils. Donc, clairement, oui, on se voit intéressé par ces sujets-là, puisque nous, on veut qu'on comprenne comment utiliser les outils.
Ben, je trouve ça assez rassurant, parce que forcément, quand on voit éducation associée au mot Microsoft, forcément, il y a plein de personnes, dont moi, hein, je vous l'avoue très honnêtement, où on se dit, OK, ils vont encore faire du business. Moi, je trouve ça assez rassurant, ce que vous rappelez, que ce n'est pas qu'une question de business. Il y a une mission derrière.
L'équipe éducation dans Microsoft Monde, hein, même pas qu'en France, nous, on est vraiment une équipe qui n'est pas, en tant que telle, une équipe commerciale. On est là pour aider dans la compréhension. C'est vraiment plus un investissement de la part de l'entreprise et de s'assurer. C'est pour ça qu'on accompagne. On ne vend pas. On va supporter. On va proposer. On a des licences qui vont être offertes aux écoles ou aux établissements scolaires. D'accord. Mon équipe, elle n'est pas incentivée sur une question de quota commercial ou autre.
Mais vous devriez être... Pardon, Christine, de vous interrompre. Vous devriez être dans la fondation Bill Gates, en fait. Mais je plaisante à peine, en fait. Non, mais je plaisante à peine. Je ne savais pas du tout. Alors, c'est hyper intéressant que l'entité éducation et recherche, il n'y avait pas d'objectif en termes de chiffre d'affaires. C'est hyper intéressant. Donc, c'est un vrai investissement de Microsoft sur le côté utiliser de façon correcte les outils numériques, c'est ça ?
C'est vraiment l'idée, c'est d'accompagner, oui, c'est de savoir comment on les utilise. Alors, on n'est pas, la Fondation Bill Gates a des objectifs différents, après, nous, on est quand même une équipe pour essayer d'aider autant qu'on peut. Et ce qui est intéressant, c'est finalement, il n'y a pas que notre équipe qui fait ça. Tout le monde, l'éducation est un sujet pour tout le monde. Donc, l'année dernière, quand il y a eu le premier confinement, l'équipe a créé un numéro vert. L'objectif de ce numéro vert, c'était pour que peu importe qui dans le monde éducation, dans le secteur, avait une question, il nous appelait. Et derrière le numéro vert, il n'y avait pas que notre équipe, il y avait tout Microsoft. Tout le monde s'est mobilisé. Wow. Parce qu'à un moment, on sait très bien que c'est un sujet intéressant, il faut appeler, il faut qu'il y ait une réponse. Quand une école a fermé, elle a besoin d'une réponse, mais il faut que quelqu'un réponde. Donc il y avait tout Microsoft derrière, et puis sachant que beaucoup d'entre nous sont parents, nos enfants sont à l'école, donc bien entendu on était intéressés aussi.
On se sent concerné, bien sûr.
Continuité. Ouais. Bien sûr, on se sent, oui, c'est pareil comme dans la santé. Alors,
Christine, moi je suis fasciné par ce que vous me racontez, parce que forcément, vous le savez, je suis français, donc les Français ils voient toujours le monstre américain qui veut faire de l'argent de partout. In fine, même s'il y a du business, peu importe, mais je trouve ça intéressant qu'il y ait une partie qui justement s'intéresse à nos problématiques en tant que parents, en tant qu'enfants, en tant qu'éducateurs. Donc, merci beaucoup pour cet éclairage, mais j'aimerais revenir à vous. Parce que j'ai raconté juste une toute petite partie de votre parcours, qui est quand même assez hallucinant. Quel regard est-ce que vous portez sur votre parcours, à vous, de votre enfant jusqu'à maintenant ? C'est quoi ? C'est de la fierté ? C'est de vous dire « demain sera encore différent, mieux, peu importe, chaque jour après l'autre ». Quel regard vous portez sur ce parcours très, très atypique ?
C'est une question difficile. Alors, fierté, je sais pas. Confiance, oui, j'ai pris un peu plus de confiance, on va dire, avec le temps. Autant, il y a peut-être 10-15 ans, je me disais que tout n'était pas possible. Maintenant, je me dis, bon, vu d'où on vient et vu où on est, finalement, beaucoup de choses peuvent être possibles. Et plus la technologie se développe, plus c'est simple, hein, dans la réalité.
Bien sûr.
J'ai un regard à la fois... critique
sur vous-même,
tout le monde probablement, oui. Et parce qu'on peut toujours mieux faire, vous savez. Alors je suis pas perfectionniste, mais je me dis ça j'aurais dû faire différemment, là j'aurais dû optimiser le temps, ma façon de parler. Et puis je vais dire, c'est un peu bête, mais quand j'ai déménagé il y a 15 ans, j'avais un vrai sujet avec mon accent. Voilà, vous le sentez peut-être encore un peu. Aujourd'hui, je me suis fait à l'idée que je le changerai pas, mais les premiers, je dirais 5-6 ans, c'était un sujet de, je parlais pas parce que j'avais un accent, je travaillais mais dessus, alors, je
pardonnez-moi, voilà, Christine, sujet, je suis obligée de vous couper parce que vous donnez dans l'archétype, pardon, mais d'une femme qui a réussi mais qui va se flageller avec des orties fraîches pour dire à quel point elle aurait pu faire mieux. Donc je vais vous poser une question. Quelle est
J'en suis pas là non plus. Hein.
Non, mais c'est intéressant parce que mine de rien, dans votre approche de la question, vous répondez de façon très humble et c'est tout à votre honneur. Mais moi, quand je lis votre parcours, je me dis, mais vous auriez de quoi être arrogante et c'est très, tout à votre honneur de ne pas l'être. Mais je vais quand même vous poser cette question. Si vous deviez, sans parler de votre vie personnelle, parce que je sais très bien, tant que maman, si je vous demande quelle est la chose dont vous êtes la plus fière, vous allez dire votre fille. Donc, hormis ça, quelle est la chose dont vous êtes la plus fière dans votre vie professionnelle ?
Je dirais le fait que je sois self-made. Alors, je ne sais pas comment l'intraduire. Ouais, c'est plutôt, finalement, quoi que j'ai fait, je l'ai fait...
Autodidacte.
Seul, voilà, autodidacte. Mmh. Ouais. J'ai eu les bonnes écoles, etc. J'ai fait, disons que j'ai fait les bons choix, que ce soit dans termes d'école.
Oui, vous n'avez rien fait que le SCP.
Voilà.
Oui, c'est
voilà.
Autodidacte qui a fait le SCP quand même. Donc, une autodidacte.
Oui, mais j'ai choisi le SCP et il y avait une bonne raison pour ça.
Bien
oui,
sûr.
Je veux dire, autodidacte dans le sens, j'ai choisi les bons parcours qu'il fallait.
Bien sûr.
Après, la grosse différence, je dirais, aujourd'hui, c'est que, à l'époque, en tout cas, dans mon époque, il fallait être dans les bonnes écoles pour aller aux bons endroits, les bons, enfin, il fallait avoir un parc. Et moi, je viens d'un pays où, même, je dirais, d'un monde, j'étais née en époque soviétique, hein, donc les traditions étaient différentes. Il fallait tout bien faire. Et donc, moi, comme une bonne élève, j'ai tout bien fait. J'étais une élève exceptionnelle, là où il fallait, dans les règles, tout comme il fallait. Et puis, il y a 10 ans, je me suis dit, bon, en fait, je vais faire comme je le sens, finalement. Parce que autrement, j'aurais jamais fait un enfant seul, puisque ma culture arménienne ne me permettait pas forcément ni de divorcer, ni de faire un enfant seul, vous voyez.
Bien sûr.
Et donc, du coup, oui, je dirais le côté self-made qui était de dire au début je fais comme il faut et puis j'ai choisi moi-même comment le faire.
C'est votre indépendance, votre fierté en fait.
C'est ça, c'est mon indépendance. En effet, c'est ça. Et ça, que ça soit financière d'ailleurs ou que ça soit.
Oui, indépendance intellectuelle.
Dans la manière de réfléchir.
Je comprends. Voilà. Alors, avant-dernière question, parce que le temps passe à une vitesse, Christine, absolument incroyable. C'est très intéressant ce que vous racontez, mais nous arrivons à l'avant-dernière question. Christine, il semblerait que nous soyons collègues, puisque vous êtes également auteur. Vous avez écrit un livre et j'ai une question basique que je pose jamais dans Happy Work, parce que Happy Work, on parle de parcours de gens, on parle de bien-être, on parle de ce genre de choses, mais ça m'intéresse et je suis obligé parce que je rencontre rarement des collègues de travail. Donc, chers collègues, pourquoi avez-vous écrit ?
Pour partager mon expérience. En fait, j'ai fait le parcours de PMA à l'époque où c'était interdit en France. Et l'année dernière, et au début, je voulais en parler, pour tout vous dire assez rapidement, parce que je trouvais que ce sujet est un tel tabou dans un pays comme la France qui est tellement développé, je ne comprenais pas pourquoi. Et je trouvais que en faire toute une honte et que les femmes n'osent pas en parler, c'était vraiment plus que dommage, c'était vraiment triste. Et donc, moi, je voulais dire, si moi, j'ai réussi, avec le parcours que j'ai et les traditions que j'ai, n'importe quelle Française ou n'importe qui peut le faire, en fait. C'est pas...
Ouais, c'est une notion de partage, en fait.
Voilà. C'est vraiment ça. Et puis, l'année dernière, il y avait la loi de la PMA qui passait. Elle était en première, deuxième lecture. Donc, moi, je l'ai rapidement sorti, le livre. C'est pas un grand livre. Hein. Il faut pas non plus s'attendre à...
Non, mais c'est un témoignage,
Twitter,
c'est
mais
important.
Au moins,
bien sûr.
C'est un témoignage, voilà. Et pour moi, l'idée, c'est de... Alors, c'est un témoignage qui est d'ailleurs assez détaillé, qui parfois peut paraître un peu cru, parce que j'ai des personnes qui ont bien rigolé. Ceux qui me connaissent, ils comprennent très bien ce que j'ai écrit et comment j'ai écrit. Mais l'idée, c'est de montrer que bah, tu as du jugement à chaque fois. Mais pourquoi ? Pourquoi on juge ? On ne comprend pas et vraiment qu'on peut y arriver. Et c'est pas grave, il faut prendre du recul. Chacun aura son opinion sur des choses. On fait parce qu'on en a envie et puis c'est tout. Et puis finalement, la loi est passée, donc j'en suis ravie.
Mais ce qui est fondamental, c'est la loi amène du bien-être. Et vous savez, alors je vais vous raconter une toute petite anecdote, Christine. Pardon, j'utilise une minute pour la raconter. Je m'appelle Châtelain Berry. Eh bien, figurez-vous que Berry, donc c'est le nom de mon épouse, et c'est grâce au mariage gay qu'en tant qu'hétérosexuel, j'ai eu le droit d'associer le nom de mon épouse à mon nom. Avant, ce n'était pas possible. Les femmes pouvaient prendre le nom de leur mari, mais grâce au mariage gay, je peux faire ça. Donc la loi en France, elle est vachement bien, il faut regarder, il faut ouvrir un petit peu son, ses chakras et se dire que ça soit la PMA, le mariage gay, tout ce genre de choses, amener du droit en plus, c'est toujours du bon en plus. Et c'est pas, ça, oui. Ça enlève rien à qui que ce soit. Je dois bien vous avouer que c'est bien la première fois sur Happy Work qu'on parle de PMA, mais j'en suis mais ravi parce que ça fait partie de votre, non, mais ça fait partie de votre parcours et je trouve ça très bien que ça soit, enfin voilà, Microsoft, PMA, enfin tout ça est très cohérent et tout ça finalement ne va que dans un sens. Servir l'humain, servir l'éducation, servir le bien-être des gens. Bref, tout ça est très cohérent. Alors, ma chère Christine.
Et puis finalement, si je peux me permettre, si on est heureux dans la vie, on sera heureux au travail.
Ah, mais complètement. Ah, bah oui, Happy Work, ça s'appelle Happy Work.
Totalement, Happy Work.
Ce n'est pas pour rien. Alors, ma chère Christine, nous arrivons à la fin de cet entretien. Et comme tous mes invités, je vous ai demandé de travailler, je vous ai demandé de choisir votre mantra ou votre citation préférée et de nous expliquer pourquoi. Chère Christine, avez-vous bien travaillé ?
On a super bien travaillé. Alors, on a choisi une citation qui est vraiment très importante et que toute l'équipe, pas que moi, y pense beaucoup. Alors, c'est « L'impossible devient possible dès lors que vous ignorez que c'est impossible » de Evans Guillaume. C'est assez connu. Et pourquoi ? Parce que finalement, ben, on avance le temps. En fait, si on se dit que c'est impossible, on va pas le faire. Donc, on va se freiner et le passage de à l'action, elle est drivée par, parfois une certaine légèreté et parfois par une idée qu'en fait c'est possible et on y va. Moi, je suis pour l'action. Il faut essayer, il faut aller, il faut faire et puis après,
Et dans le pire des cas, on se plante.
Finalement, on sera ravis.
Et si on se plante.
Et puis, au pire des cas, oui.
Au final,
mais au moins, on aura appris.
Et on aura essayé.
C'est pas grave, peut-être qu'on aura appris. C'est vraiment le. Et d'ailleurs, l'idée, toutes les questions de l'échec, même de l'échec scolaire, est très compliquée parfois en France, parce qu'on a le droit de faire des erreurs. Et bien au contraire, il faudrait les considérer comme un apprentissage et pas comme une erreur.
Mais Christine, vous savez, mais il faudrait qu'on parle pendant 3 heures, mais les épisodes de 3 heures de Happy Work, ça n'existait pas, parce que j'ai fait toute une conférence il y a quelques jours sur l'imperfection et que je rappelais en France. Souvent, dans l'éducation nationale, on souligne en rouge les erreurs, alors que certains professeurs soulignent en vert ce qui a été bien fait. Et je trouve que ça serait bien qu'on change notre regard sur l'erreur, sur l'imperfection, et qu'au lieu de dire « bouh, ça c'est mal », de dire « ah, ça c'est bien ce que t'as fait ». Appuie-toi sur tes qualités, appuie-toi sur ce que t'as bien fait, et peut-être que ben, on risquerait plus de choses, parce qu'au final, enfin, je parle sous votre contrôle Christine, on sauve pas de vie au quotidien. Et donc, on a le droit de prendre des risques, non ?
Alors, on peut sauver des vies quand même, puisque la connaissance ou l'apprentissage peut sauver...
Non, mais je parlais de vous individuellement.
Mais... Moi, personnellement, voilà. Non, mais il faut vraiment y aller, il faut essayer. Moi, je suis pour l'action. Il faut qu'on le fasse et ça va nous aider. Et puis, on le voit, ça semblait d'être impossible, d'ailleurs, il y a un an, d'avoir un apprentissage à distance. Et puis finalement, aujourd'hui, on se dit que c'est plus que possible.
Bien sûr. Christine, ça fait bientôt une demi-heure qu'on parle. J'ai l'impression que ça fait 3 minutes et demie qu'on parle ensemble. Donc, j'espère et je sais que les auditeurs de Happy Work auront passé un aussi bon moment que j'ai passé à vous parler. Mille merci pour cet entretien. Mille merci pour ce que vous faites. Et maintenant, je pense que tout parent qui va écouter cet épisode va savoir... ce que vous faites, parce que on en a mangé quand même de l'éducation à distance, et c'est aussi grâce à votre action que c'est devenu peut-être plus convivial, plus intéressant, qu'on a appris à utiliser ces outils. Donc mille merci pour ce que vous faites, Christine, mille merci pour le temps que vous m'avez accordé, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation. Prenez soin de vous, prenez soin de votre fille, prenez soin de tout ce qui compte pour vous, et j'espère à très bientôt, Christine.
Merci Gaëlle, et merci à tous. À très bientôt.
Eh bien, chère Christine.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.